DW. Droits et libertés.
Le 29 janvier 2025 fera date dans l'histoire politique de l'Allemagne contemporaine. C'est le jour où la droite parlementaire, CDU-CSU, principal groupe d'opposition au Bundestag, a déposé une proposition de plan en 5 points pour durcir la politique d'asile. La gauche, le SPD, les Verts ont indiqué qu'ils étaient contre, mais le texte a obtenu le soutien des libéraux, du FDP, mais surtout de l'extrême droite. Car sans le soutien des députés de l'AFD, la proposition n'avait aucune chance de passer. Alors certes, elle a été retoquée, cette proposition de loi, mais cette alliance ponctuelle des conservateurs avec l'extrême droite a été un coup de tonnerre dans l'Allemagne, qui se prépare aux législatives anticipées du 23 février. Un tabou a été interrompu, qui reflète une évolution de la société allemande. Et en seconde partie de cette émission, nous allons revenir sur la puissance d'infiltration idéologique de la Russie de Vladimir Poutine en Afrique. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde. Friedrich Merz, vous avez sans doute déjà entendu ce nom, c'est le candidat conservateur de la CDU-CSU au poste de chancelier si la droite obtient la majorité aux législatives anticipées en Allemagne. Or, pour le moment, Friedrich Merz est en tête des sondages d'opinion. La CDU a toujours assuré qu'elle ne ferait pas alliance avec l'extrême droite au nom du pare-feu politique, comme on dit en Allemagne, ce qu'en France on appelle le barrage républicain. Sauf que l'extrême droite a le vent en poupe au sein de l'opinion et qu'elle pèse au Bundestag. Friedrich Merz a donc accepté le soutien des élus de l'AFD pour faire passer son texte au Parlement en déclarant que le plus important était, je cite, « de faire ce qui est juste, même avec les mauvaises personnes ». Le candidat conservateur s'appuie sur des sondages qui affirment que 68% des Allemands interrogés réclament un durcissement de la politique d'asile. En clair, qu'ils veulent moins de réfugiés accueillis en Allemagne. 22% des personnes sondées estiment que l'accueil des demandeurs d'asile doit rester à son niveau actuel et seulement 3% des personnes interrogées aimeraient que l'Allemagne ouvre plus grand ses portes. Ce sondage a été effectué par l'Institut Infratest d'IMAP auprès de 1336 ressortissants allemands ayant le droit de vote entre les 27 et 29 janvier 2025. Le plan de la CDU-CSU préconise de restaurer des contrôles permanents aux frontières avec les pays voisins de l'Allemagne et de renvoyer, sans exception aucune, toute personne qui tenterait d'entrer sur le territoire de manière illégale. Cette règle s'appliquerait aussi aux demandeurs d'asile. Alors attention, il ne s'agit pas d'une loi, mais d'une déclaration d'intention politique sans fondement juridique, ce qui n'empêche pas une majorité d'Allemands d'être d'accord sur ce principe. Le problème, c'est qu'il n'est pas sûr que ces propositions soient en accord avec le droit européen. La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, du SPD, assure que l'Allemagne restera dans les clous européens et qu'elle cherchera des solutions en discutant avec les autres pays membres afin d'appliquer au plus vite le nouveau pacte européen sur l'asile et la migration. Sauf qu'il est fort possible que le SPD, crédité actuellement de 15% des intentions de vote, ne soit plus aux manettes après les élections du mois de février. La CDU, je vous le disais tout à l'heure, est donnée en tête avec 30%, suivie de l'AFD avec 20%. Pour ce qui est de l'ambiance générale en Allemagne, elle est plutôt morose. 83% des Allemands interrogés se disent inquiets. 13% seulement affirment avoir confiance en l'avenir. Ce qui préoccupe le plus les sondés, c'est l'immigration et la situation économique d'abord. Puis pour 20%, les conflits et les guerres dans le monde. Et 18% dit avoir peur de la montée de l'extrême droite dans la société. Des manifestations ont encore eu lieu récemment pour protester contre l'idéologie propagée par l'AFD. Mais un électeur sur 5 déclare ne pas encore savoir avec certitude pour qui il va voter en février. Vous écoutez toujours Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. Alors imaginez maintenant une photo qui montre des yachts de luxe blancs sur une jetée, des gratte-ciels en verre dans une lumière dorée. Cette belle photo a été postée sur Facebook et elle est censée montrer la beauté de Moscou. Oui, mais voilà, il suffit de faire une recherche inversée d'image sur Internet pour constater que cette photo n'a pas été prise dans la capitale russe, mais bien à Dubaï. Le compte qui a posté la prétendue photo de Moscou est géré depuis le Burundi, à en croire les informations du profil, en tout cas comme le numéro de téléphone qui est indiqué. Plus de 180 000 personnes suivent ce compte, qui se présente comme un site d'information. Mais les tentatives d'influence pro-russe sur les réseaux sociaux ne sont pas toutes aussi grossièrement mensongères. La plupart sont même vraiment subtiles. Dans un rapport de mars 2024, l'Africa Center for Strategic Studies, un institut de recherche de l'armée américaine, désigne la Russie comme le principal auteur de campagnes d'influence en Afrique. Depuis l'enquête précédente, qui avait été menée 2 ans plus tôt, on a documenté une multiplication par 4 de la désinformation, selon ce centre. La plupart du temps, la désinformation déforme des éléments réels en les exagérant ou en omettant volontairement certaines informations. Et ça marche parce qu'elle s'appuie, cette désinformation, sur des opinions déjà existantes. Elle renforce des préjugés, c'est ce qu'explique Aldo Cornelissen. Il est cofondateur de la société de conseil numérique sud-africaine Murmur Intelligence.
Il y a une juxtaposition naturelle entre l'Est et l'Ouest en Afrique, où l'Ouest est historiquement le méchant. Cette juxtaposition est présente dans presque toutes les conversations. Il n'est pas nécessaire de faire grand-chose, il suffit de le rappeler pour attiser le feu. Et il n'est pas nécessaire de mentir ou de faire de la désinformation pour rappeler cela aux gens.
Aldo Cornelissen et son équipe étudient les réseaux sociaux pour des clients politiques ou commerciaux, par exemple pour des études de groupes de réflexion.
Vous avez un réseau mondial de comptes clés qui sont reliés à des comptes clés au niveau de l'Afrique et ensuite dans chaque pays, ils ont leurs propres influenceurs avec des sortes de franchises et cela tisse des liens entre les récits en amont et en aval.
And that links up and down the narratives.
C'est également ce que constate Beverly Ochieng. Elle est chercheuse au sein du programme Afrique du Centre américain d'études stratégiques et internationales basé à Dakar.
C'est un peu un cercle vicieux parce qu'on nous demande aussi d'avoir l'air authentique. Si par exemple un groupe de la société civile tient ce discours en bambara dans la rue au Mali, on n'a pas l'impression que ça vient d'un fonctionnaire russe. On a l'impression qu'il s'agit d'un sentiment sincère exprimé par quelqu'un qui parle une langue locale et qui a su trouver un écho auprès de l'opinion publique. Mais c'est généralement ainsi que les choses se passent de manière très subtile. Ce n'est pas hyper sophistiqué, mais c'est subtil et efficace.
Subtil et efficace parce que contrairement aux posts provenant d'une usine à trolls lointaine, de nombreux contenus proviennent désormais de personnes de la région qui connaissent aussi les particularités linguistiques et culturelles. L'analyste de données Cornelissen qu'on entendait tout à l'heure les qualifie de nano-influenceurs. En Afrique du Sud, il a documenté leurs activités. Ces personnes sont toutes rémunérées. Pour l'équivalent de 10 euros, c'est-à-dire 200 rands, on peut se payer ainsi une campagne très bon marché et très rapide. Petit à petit, ces idées font leur chemin, certains les font leurs et les répandent ensuite gratuitement. Et puis, il y a les buzzers qui renforcent la portée des posts, c'est-à-dire ce sont des comptes contrôlés par des personnes ou des robots qui génèrent de la visibilité et de la portée en multipliant les partages et en se citant mutuellement. L'ONG Center for Analytics and Behavioral Change a documenté un tel réseau autour du compte X officiel de l'ambassade russe en Afrique du Sud, par exemple. En RCA, la Russie a créé aussi des canaux directs de diffusion comme la radio Lengo Sango qui a été fondée en 2018 vraisemblablement par des agents russes. En novembre, plusieurs médias européens ont publié une investigation sur un lanceur d'alerte centrafricain qui, après avoir fui, a expliqué comment son travail fonctionnait. Il fournissait à la station des experts pro-russes et puis ensuite, en tant que journaliste de presse, il a signé des articles dont le contenu était en partie détaillé par ses intermédiaires russes. La chaîne de télévision publique russe RT diffuse aussi des récits favorables à la Russie. Dans de nombreux pays occidentaux comme l'Allemagne, RT est partiellement interdite, mais elle a par exemple initié un centre médiatique anglophone en Afrique du Sud, et ses programmes peuvent être facilement captés dans plusieurs pays africains, en anglais et en français. Certains journalistes de haut niveau, travaillant pour des médias maliens comme Radio Émergence ou L'Élite, qui louent l'action russe au Sahel et sont parfois liés à la junte malienne, y interviennent aussi régulièrement en tant qu'experts. Parmi les sites les plus consultés de cet empire médiatique, citons aussi African Stream ou African Initiative, qui a ses racines dans le réseau d'entreprises d'Evgeny Prigogine, le fondateur du groupe Wagner. African Initiative gère aussi des comptes sur Telegram ou sur les réseaux sociaux, parfois ouvertement, parfois de manière cachée. Au Mali, ce groupe entretient des liens avec l'école de journalisme locale. Au Burkina Faso, le groupe dispose de ses propres bureaux. La puissance de frappe russe est aussi mise en avant dans la culture populaire. Un film d'action russe sorti en 2021, par exemple, Tourist, a pour héros un soldat d'élite russe en RCA. Il y a aussi un jeu vidéo, African Down, qui est présenté par l'African Initiative, où les joueurs peuvent choisir de se glisser dans le rôle des armées du Sahel et de leurs auxiliaires russes, ou alors dans celui de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, soutenue par la France et les États-Unis. Avec pour message subliminal que la Russie est un meilleur partenaire que l'Occident colonialiste.
You cannot dispute the fact that Russia did support.
On ne peut pas contester le fait que la Russie a soutenu des gouvernements émergents en Afrique. Oui, cela a existé. Mais en fait, il joue sur la corde sentimentale. La Russie est restée une amie au fil des ans parce qu'elle a été à nos côtés dès le début. Il ne s'agit donc pas forcément de mensonges purs et simples, mais plutôt d'une exagération des choses pour entretenir la colère envers la France et l'Occident.
C'est la fin de ce magazine. Merci à David Hill, Monir Raidi et Sabine Kinkart. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en vous rendant sur notre site internet dw.com/français ou en allant la podcaster sur la plateforme de podcast de votre choix. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.